c'est Hervé de Charleville. Écoute, là, je vais bosser, voilà, comme pas mal de Français, là, pour l'action raffarinade, etc. Bon, voilà, bon, je prends mal impatience, et puis, très bien. Et puis là, j'écoute Dominique Perben, encore une fois, défendre Hydrut, etc., machin, et j'ai vraiment envie de faire demi-tour, quoi, puis de retourner coucher. Voilà, tout. Salut.
Salut Daniel, voilà, je suis un fidèle de l'émission, un citoyen ordinaire. J'appelle parce que je suis révolté par ce qui s'est passé vendredi à la manif de Grenoble contre la nanotechnologie et l'inauguration de Minatec. Je suis directement touché par les agissements des flics à la botte du pouvoir. Dans tout cela, il faut espérer qu'un débat s'ouvre sous les finalités de ces recherches et que ce débat ne s'ouvre pas comme pour Tchernobyl 20 ans après. Car là aussi, heureusement qu'il y a eu la criade. C'est pour cela que je fais l'analogie. On pourrait évoquer la même analogie avec les OGM. Les arguments du pouvoir et des technocrates sont toujours identiques. Ceux qui s'opposent, au nom de l'absence d'un vrai débat scientifique et contradictoire, sont forcément des obscurantistes et toujours, on nous ressort leur tour à la bougie. Les enjeux ne sont pas seulement économiques et militaires ou industriels. Il s'agit aussi d'enjeux éthiques et philosophiques. Personne ne peut être contre la recherche. Et il s'agit ici d'agir sur le vivant, le transhumain, l'homme, l'interne connexion avec une machine, avec les technologies comme dites convergentes. Au nom de notre bonheur, bien sûr, tout ça. Allez, salut Daniel, j'emmerde de ceux qui veulent notre bonheur malgré nous et nous amuse actuellement avec Ségolène ou Nicolas le jardinier de la rupture. Pendant ce temps, des jeunes qui n'ont que le tort de manifester sont en garde à vue après cette manif et peut-être inculpés pour refus de test ADN, comme s'ils étaient des terroristes. Entrons en résistance contre tes apprentis sorciers, Daniel. On compte sur toi pour que tu suives ce dossier. Allez, fraternellement, Michel de Lyon.
Salut, c'est Samuel de Grenoble. Vendredi, je vous parlais des nécrotechnologies de la première manifestation mondiale contre Minatec, le plus grand centre européen en nanotechnologie. Passer à la base si j'y suis, ça m'a fait un sacré effet. Hein. J'écoute votre émission depuis le lycée et elle a fortement contribué à mes engagements politiques. C'est notamment toi, Daniel, qui m'a permis de découvrir Cornelius Castoriadis. Enfin bref, vendredi, j'ai pas eu le plaisir d'écouter l'émission parce que j'étais en garde à vue pour, je cite, incitation à attroupement armé, rien que ça. Perquisition, fouille au corps, pression psychologique, de quoi me punir d'avoir tenu le mégaphone pendant la manifestation et fait de nombreuses interventions médiatiques. J'ai finalement été relâché, mais je suis convoqué au tribunal de Grenoble le 19 juin à 14h avec d'autres compagnons pour, je cite, avoir continué à participer à un attroupement après sommation. Bref, pour avoir manifesté contre Minatec. C'est donc le premier procès des opposants aux nécrotechnologies. Face à la contestation, l'État a sorti une fois de plus le cocktail répressif. La manif a été chargée violemment. Même les gens qui tractaient ont été contrôlés et fichés par la police. L'État et les multinationales ont inauguré un nouveau bunker pour la recherche militaire. De notre côté, nous appelons toujours au débat sur les nécrotechnologies et, comme dirait Jacques Ellul, sur les conséquences sociales de cette fuite en avant technicienne. Plus d'infos sur ogn.ouvaton.org. Ciao.
Bonjour, c'est Johan de Grenoble. Donc, je suis chercheur au CNRS. J'ai écouté l'émission d'aujourd'hui sur les micro-nanotechnologies sur Grenoble. J'ai écouté également le mouvement pièces et main d'œuvre et le mouvement grenoblois contre les nécro-technologies. Des étudiants de mon laboratoire sont allés assister à la réunion publique qui a lieu mercredi soir sur Grenoble, donnée par ces associations. J'ai lu le document diffusé sur le net intitulé « Pourquoi faut-il fermer le CEA de Grenoble ?». J'ai également assisté à un débat avec Axel Kahn au printemps dernier avec des gens de pièces et main d'œuvre qui sont intervenus lors de ce débat. Et je suis indigné. Qui manipule qui? Je sais que la thèse du complot marche très très fort en ce moment, Da Vinci Code et compagnie. Mais là, il faut dire stop. Il faut dire stop. Le CEA, dire que le CEA ne fait que des armes, c'est faux. C'est de l'information parcellaire. C'est vrai que le CEA participe à l'élaboration d'armes. Il ne fait pas que ça. J'ai travaillé moi 2 ans pour le CEA. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé sur l'étude et le développement de systèmes pour la biologie et étudier le génome humain. Donc rien à voir avec les armes. Là, je travaille à nouveau avec le CEA en collaboration. On développe des outils pour le diagnostic médical. Donc rien de nouveau, rien à voir avec l'armement une fois encore. Dire que le salaire des chercheurs dans la recherche publique en France est de 7 000 euros, c'est faux. Je suis jeune chercheur, je touche 1 700 euros par mois. Voilà, j'ai passé le bac il y a 12 ans. Que dire d'autre ? dire que Sauvons la Recherche est un mouvement lobby sponsorisé par les industriels, c'est complètement faux. Je pense qu'il y a des gens qui doivent leurs cheveux qui doivent se dresser, voire tomber de leur tête. Vous trompez de combat. Minatec, c'est super. Il faut encourager ça. Il faut encourager les cellules souches. Il faut pousser dans ce sens-là. Il faut pas freiner. Au contraire, je veux dire, c'est le salut de demain. C'est les luttes contre les maladies et les exclusions qu'il peut y avoir à travers le monde sur toutes les différentes formes d'injustice, sur la nutrition, la maladie, l'égalité face aux soins. Les OGM également. Personnellement, je suis contre les essais d'OGM en plein champ. Et les OGM, c'est plus que ça. Il y a des choses beaucoup plus encourageantes et qui sont pleines d'espoir et qu'il faut aider. Il faut encourager. C'est ça qu'il faut défendre. Voilà. Alors oui, il faut un débat public, il faut informer les gens sur la science, il faut leur expliquer ce qu'on fait dans les laboratoires, pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche, pourquoi est-ce qu'on a besoin de recherche fondamentale et pas forcément liée à des buts industriels, mais non pour laisser choisir les thématiques de recherche à l'opinion publique. Je veux dire, il faut faire confiance aux gens, il faut faire confiance aux chercheurs, ce sont eux seuls qui ont la connaissance et qui ont la sensibilité et l'expérience pour savoir ce qui est important ou pas et proposer des solutions des maux d'aujourd'hui. Voilà. Merci.
Merci, merci. Faire confiance aux chercheurs parce que sont eux qui ont la connaissance. Et ben la réponse est non. Et non, depuis longtemps, non. C'est pas parce qu'on a la science qu'on a la conscience. C'est un vieux débat, c'est une vieille question. Et il n'est pas question de faire une confiance aveugle à ceux qui savent, aux experts, etc. Mais vous voyez en tout cas que le débat est ouvert. Sauf que dans le message qu'on vient d'entendre de cet auditeur, il répond à des questions dont il n'était pas question dans le reportage de vendredi. Il parle d'autres choses, mais dans très peu des idées ou des éléments ou des informations ou des façons de voir aussi, bien sûr, qui ont été celles du reportage de vendredi. Mais en tous les cas, on est bien d'accord pour dire qu'il faut un débat public. Mais encore une fois, les experts ne doivent pas avoir le pouvoir. Et à ce sujet, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt dans Témoignage Chrétien un entretien avec Corinne Lepage sur toute la défiance ou toute la vigilance qu'il faut avoir à l'égard de ces experts qui, bien évidemment, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent sont liés à des groupes d'intérêts, à des lobbies, et de toute façon, sont comme vous et moi, des gens empreints de passion et de subjectivité, et y a pas à se laisser manipuler non plus. Alors la question, quand on sait pas, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quelqu'un a cité Cornelius Castoriadis. Il évoquait assez bien comment ses ancêtres grecs avaient fait par rapport à ça en inventant ce qu'on appelait alors la démocratie, ce qui pourrait être aujourd'hui encore la démocratie, c'est-à-dire que chacun, même celui qui est ignorant, vote. Et ça, c'est quelque chose de très important. On doit avoir des citoyens les plus éduqués possibles, mais pas des experts. Il faut que ces citoyens soient éclairés, qu'ils s'éclairent aussi le plus possible, mais nous avons à à réfléchir beaucoup sur ces points, et on voit bien que la question des nanotechnologies est un sujet qui s'ouvre et que nous allons effectivement suivre. On va pas lâcher ce sujet passionnant. Merci à tous en tout cas pour ces messages. Vous voyez que c'est on travaille le lundi, nous, hein, le lundi de Pentecôte, on a décidé d'être là à l'antenne. C'est vous qui nous y poussez beaucoup par ces messages passionné. Aujourd'hui, on va continuer la balade à Dubaï. Dubaï, Eldorado libéral. Vous allez voir, une nouvelle découverte dans cette charmante petite cité. Et, une chose très importante. Aréopage. À chaque fois que je prononce ces mots, je me gourre. Ça, c'est un pan sur le bec. C'est pas aéropage, comme je le dis souvent, mais aréopage. Et j'en remercie l'auditeur qui m'a corrigé. Voilà, on part pour Dubaï après les messages que voici, que vous avez laissés sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Fabienne de Grenoble, je suis tout simplement une personne de plus indignée par ce qui se passe à Dubaï. J'ai eu l'occasion de découvrir cet endroit lors d'un séjour de 6 mois en Afghanistan pour Médecins Sans Frontières en 2003. Vous imaginez le contraste. Et médecin généraliste sur Grenoble, j'étais de garde ce matin. J'ai fait un certificat médical pour, entre autres, Samuel, le jeune militant qui vous a laissé des messages cette semaine, qui était en garde à vue, qui était choqué. Et voilà, par respect pour lui, j'avais envie d'appeler et de dire que un combat militant, c'est pas rien, et qui vit au niveau personnel, c'est pas rien non plus. Voilà. Merci, au revoir.
Voilà, bonjour, c'est Joseph Haber. Voilà, alors, après vos émissions sur Dubaï, là, je reçois là, aujourd'hui le programme télé, là, alors ce serait le mardi 13 juin. Le mardi 13 juin, sur Arte, je vois, soirée thématique, le monde bouge et nous. Alors ça commence à 20h45, la plus grande ville du monde, Chongqing, et à 21h25, un reportage, un titre, Dubaï Vertigo. Alors, l'essor de Dubaï sous la conduite de la famille régnante, les Al Maktoum, un émirat arabe qui prépare l'après-pétrole et ambitionne de devenir un carrefour stratégique à la pointe de la modernité technologique. Et donc, ça se termine en fin d'émission. Débat, alors surprise, je vois le très socialiste, le camarade Pascal Lamy, aux pensées du débat. Voilà, alors si les éditeurs sont intéressés, ça passerait le mardi 13 juin. Au revoir, merci Daniel.
Bonjour, je m'appelle Gérard et je réside dans un village de Lyon. Je reviens rapidement sur votre reportage à Dubaï, pour lequel certaines personnes semblaient surprises. J'apporte quelques éléments nouveaux pour le Qatar, qui est voisin des Émirats. Et oui, la même situation se produit pour les conditions de travail. Étant en réception il y a quelques années d'une usine de ciment, j'ai vu les Pakistanais, Indiens et autres à genoux sur les routes cimentées, puisqu'il n'y a pas de goudron. Ces personnes grattant des dépôts de matériaux qui tombaient des camions, et ceci en plein soleil, bien sûr. La seule reconnaissance était l'arrêt du travail durant 2 heures au plus haut du thermomètre. Il se réfugie alors dans des bungalows, sans clim, en plein désert, sans commentaire. Après avoir parcouru quelques kilomètres dans ces bus jaunes, marqués school, école d'origine américaine. Les salaires étaient similaires à Dubaï. Mais le pire, c'est qu'il devait parcourir environ 60 km pour rejoindre Doha, ville phare du sport d'aujourd'hui, et unique ville du Qatar. Je rappelle aux éditeurs que le Qatar est grand comme à peine 2 départements français. Bravo à toute l'équipe, hein, et bon courage.
Suite à la mort de Capi et Domingo, les deux piroguiers de la plus grande réserve de France, celle des Nourags, lâchement assassinés par des clandestins orpailleurs. Nous sommes là devant la préfecture, une marche silencieuse d'environ 200 à 250 personnes en attente d'être reçues par Monsieur le Préfet. Nous profitons de ce message pour remercier Monsieur Chirac, qui est venu en bon VRP saluer Monsieur Lula, son client, et qui n'ont même pas évoqué les milliers de Brésiliens clandestins qui pillent la Guyane et qui, pour une partie d'entre eux, précisons bien, pour une partie d'entre eux, sont de vrais criminels et qui sèment la sécurité dans toute la Guyane et provoquent un climat totalement délétère. Merci Monsieur Chirac de n'avoir pas du tout abordé le problème de la Guyane. Voilà, c'était Patrick de Cayenne. Il fait chaud, il fait beau. Et nous sommes tous très tristes parce que nous connaissions bien ces deux piroguiers.
Je vous appelle de Lille. Un rendez-vous des amis de là-bas, si j'y suis, a lieu tous les premiers lundis du mois au Café Tabac, les Comtes de Flandre, rue de la Monnaie, à Lille donc.
On a eu récemment des clients étrangers qui nous ont demandé une bouillabaisse. Donc on a importé en moins de 24 heures tous les ingrédients et préparé pour eux ce plat.
Donc si je veux un cassoulet, c'est possible en 24 heures?
Tout à fait. Tout est disponible, j'ai envie de dire, toute l'année à Dubaï.
Ils acceptent et accueillent tout le monde. Ici, ils viennent, ils nous disent, venez partager notre succès. C'est ce qui fait le succès de Dubaï.
Nous travaillons toute la journée et puis quand nous retournons le soir, on n'a même pas d'eau pour se laver.
Et vous avez à manger quand même.
C'est que ce qu'on nous donne, même les chiens ne vont pas le manger. Même les chiens vont refuser.
Il y a eu beaucoup de mouvements de grève, on nous a parlé d'émeutes récentes.
Il y a des dernières semaines, il y a eu 2-3 grosses grèves.
But a strike in UAE is illegal.
Mais là, il faut savoir que les grèves sont interdites ici aux Émirats Arabes Unis.
Il n'y a pas un modèle au monde qui peut afficher une telle croissance. Donc pourquoi ne pas y croire ?
Nous avons laissé nos femmes, nos enfants derrière au Pakistan. Ici, les conditions sont horribles. On n'est pas payé pendant des mois.
Tout marche et tout rapporte. C'est agréable, un petit verre de champagne. Dubai Inc. Dubai Incorporated.
Dubai Waterfront. Next Generation Destination.
Salut, c'est Daniel Mermet, la base où j'y suis avec Guy Vanctil. Dubaï, Eldorado, libéral.
Flight number 2, arriving.
Là, on entend en plus. On entend.
Et on se dit qu'il y a des gars qui sont là-haut, dans ces grues. Regardez les gars qui sont dans les grues. C'est ces 15, 20, 20 étages et qui sont en train de bosser par ce gagnard. Il fait 40 degrés là. La fille qui nous fait visiter, elle s'excuse. On va être obligé de faire quelques pas à travers le jardin et ça va être très court. Et c'est un jardin verdoyant avec des jets d'eau et tout. Elle s'excuse de nous faire quelques pas à l'extérieur, alors que les mecs passent 10 heures là-haut.
On a ici sur deux étages le spa Givenchy et le hammam oriental au rez-de-chaussée. Au spa, vous avez une sélection de soins de visage, soins du corps, massage, selon les standards Givenchy, je dirais la petite touche française de l'hôtel.
Et là, ici, c'est l'endroit le plus sélect, les trois hôtels.
Je dirais les trois endroits sont sélects. Ici, c'est la partie de l'hôtel la plus petite. On a ici que 50 chambres, donc le service est totalement personnalisé. Vous avez déjà ici, l'architecture est beaucoup plus intime, les plafonds sont plus bas, d'où le nom de cette partie de l'hôtel, la résidence. On voulait que nos clients se sentent chez eux.
Alors c'est que du marbre, des boiseries, des ferronneries.
S'ils se sentent chez eux, ça veut dire que chez eux, c'est quand même déjà assez...
C'est pas mal.
Assez chic.
C'est bon,
une vue d'une fontaine, des plans d'eau qui descendent vers une terrasse. Et alors, on voit la mer encadrée par les palmiers, un peu d'air.
Autour de la piscine, chaque client a son propre petit gazebo qui lui est réservé.
Son gazebo, c'est-à-dire ?
Un gazebo et un grand...
Parasol ?
Plus qu'un parasol, c'est une petite maison recouverte en toit.
Voilà, c'est sa petite maison.
Et alors ici, on a une petite touche particulière, c'est que tous nos clients, le concierge va vers eux à la piscine et leur propose toutes les facilités services de l'hôtel au bord de la piscine. Vous avez un nettoyage des lunettes autour de la piscine.
Si vous ne pas se nettoyer ces lunettes,
cocktail,
vous nettoyez vos lunettes.
Alors la résidence est un restaurant qui s'appelle le dining room, la salle à manger, où le chef, il a bien sûr un menu disponible et vous suggère également d'accommoder les plats selon votre envie, comme à la maison. On a eu récemment des clients étrangers qui nous ont demandé une bouillabaisse, donc on a importé en moins de 24 heures tous les ingrédients et préparé pour eux ce plat.
Donc si je veux un cassoulet, c'est possible en 24 heures?
Tout à fait, tout est disponible, j'ai envie de dire, toute l'année à Dubaï.
Ils étaient contents, leur bouillabaisse.
Ravi.
Ravi. Ravi. Le christianisme a eu ses cathédrales. Le capitalisme a eu ses gratte-ciel, le communisme a eu ses statues, et le néolibéralisme, eh bien, ce sera Dubaï. Dubaï, méga Disneyland, hyper géant, un péplum à Merloc, clinquant, nouveau riche, tapageur, ostentatoire. Voilà où nous sommes encore aujourd'hui pour cette balade. Où sommes-nous? Oh, on connaît déjà, si vous connaissez Los Angeles, ou plutôt si vous avez simplement la télé. Si vous avez la télé, vous avez déjà vu ce genre de décor avec ce genre de musique. Sauf que là, c'est un peu plus oriental, mais tendance péplum, tendance carton-pâte. Il faut bien dire qu'on est séduit hein, par un dynamisme pareil. Ça force l'admiration, ça va vite, ça va haut. Tout marche, tout profite, sauf que, ben voilà, pour quelques-uns qui dansent sur le pont au son des saxos et des violons et qui s'en mettent jusque-là, dans la nuit orientale, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans la cale, beaucoup, beaucoup de monde dans la soute qui n'a pas beaucoup droit à la parole et qui n'a pas beaucoup de droit du tout. Alors vous vous doutez bien que c'est vers eux que nous sommes allés aussi. Dubaï, mais à quel prix?
Oh no, see their lies, read their point, see their lies. So we love it here, love it and then we get you.
For Dubai is only 10% of my vision for it. A quote from His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Dubai Crown Prince and the architect of many prestigious projects in the Emirate.
Dubai, c'est Dubai Inc. Dubai Incorporated. C'est une grosse société, donc nous contribuons tous à cette société. De la même façon que si je travaillais dans une grosse société en France, je contribuerais à cette société. Donc Dubai devient ma société. Il y a un patron, il y a un directeur général qui est le Cheikh Mohamed, et Dubaï est géré en effet comme une grosse, grosse société.
Voilà, Dubaï c'est l'avant-garde, fini ce fossé inutile entre le politique et l'économique. C'est une ville-entreprise. Dubaï, c'est la ville-entreprise. Plus besoin de... Vous voyez, c'est le MEDEF qui est au pouvoir. Le pouvoir est au MEDEF. Et puis, n'en parlons plus. Plutôt que de faire semblant, de diviser comme ça les choses. Là, c'est ça la force de Dubaï. C'est que Dubaï est une entreprise. Mais avant de continuer aujourd'hui la balade dans Dubaï et la découverte de Dubaï, je pense qu'il faudrait faire un tout petit peu de géographie très vite pour rappeler où ça se situe ça. Hein, ces Émirats arabes unis dont Dubaï fait partie, ces Émirats arabes unis font partie de ce qu'on appelle les monarchies du Golfe sur la partie orientale de la péninsule arabique. Il y a ces cinq petits États monarchiques qui sont Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman et Émirats Arabes Unis qui sont plus, ces cinq monarchies, plus ou moins très riches, adossées à l'immense Arabie Saoudite. Alors, les Émirats Arabes Unis sont en bordure du golfe Persique. Autrefois, c'était la côte des pirates. Et en 1820, les Britanniques prennent le contrôle de cette place stratégique. Pourquoi ? Eh bien, pour protéger leur route des Indes. C'est un point stratégique très important. C'est un port face aux côtes de l'Iran. Et les Britanniques se rendent maîtres de ce point crucial. En échange de quoi ? Eh bien, en échange d'une protection des chefs locaux. Nous vous protégeons et nous contrôlons cette place. L'activité à l'époque, c'était la pêche et le commerce des perles. Et ça, c'est resté jusque au cours de ce siècle. En 1953, découverte de gisements du pétrole à Abu Dhabi, qui est l'un des Émirats Arabes Unis, et ça bouleverse les choses. On enjambe les années. Les Britanniques finissent par se retirer à la fin des années 60, et en 1971, c'est la création de la Fédération des États Arabes Unis. Alors comment ça fonctionne ? Il s'agit de monarchie absolue. Les partis politiques sont interdits, les citoyens n'ont pas le droit de vote, toute forme d'opposition est réprimée. Seul, et ça c'est un phénomène tout à fait extraordinaire, seul 10% de la population des Émirats Arabes Unis sont des nationaux. Les autres sont des travailleurs étrangers qui n'ont aucune chance de s'intégrer. On ne mélange pas les torchons étrangers avec les serviettes nationales. Et les serviettes nationales vivent selon... C'est un état-providence parfait pour ces 10% de la population. C'est-à-dire que les Émiratis ont la santé gratuite, l'éducation gratuite. C'est le rêve, c'est l'espèce de communisme réellement existant dans cet hyper-libéralisme, hyper-capitalisme. C'est une forme de réussite, évidemment, pour un tout petit groupe. Parce que pour ces travailleurs étrangers, il y a, lorsqu'ils arrivent pour travailler, retrait du passeport en échange d'une carte qui permet de circuler et de travailler pour certaines entreprises bien précises et pas d'autres, des contrats de travail à durée déterminée et très souvent à courte durée, un refus de l'accès aux droits de propriété, ça c'est un petit peu en train de changer, mais jusque-là, les étrangers travaillant ou vivant dans les Émirats Arabes Unis n'avaient absolument pas le droit d'accéder à la propriété. Ensuite, lorsqu'on veut monter une entreprise, et ça attire beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'entrepreneurs, il y a un mécanisme de ce qu'on appelle un sponsoring, c'est-à-dire de parrainage, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en cheville, disons, voilà, avec un autochtone, je dis ça, je mets des guillemets, bien évidemment, avec un Émirati, et il couvrira, il cautionnera l'affaire, et bien sûr, au passage, il prélèvera une part très substantielle des bénéfices que vous réaliserez si vous voulez vous installer là-bas. Et par ailleurs, le regroupement familial est absolument interdit à tous ceux dont les revenus sont inférieurs à 1500 euros par mois, c'est-à-dire la grande majorité de ces travailleurs étrangers, même si il y a une catégorie, on en a déjà rencontré, d'expatriés, on ne dit pas travailleurs étrangers, ce serait péjoratif, mais d'expatriés qui, eux, bien sûr, gagnant plus de 1500 euros par mois, peuvent faire venir leur famille. La majorité de ces travailleurs étrangers, on l'a dit, viennent du sous-continent indien. Depuis longtemps, certains ont réussi, se sont débrouillés, ont monté des petites entreprises qui consistent à faire venir leurs compatriotes, à les exploiter joyeusement au passage. Environ, disons, 70% des travailleurs venant du sous-continent indien, en comprenant aussi aussi bien le Népal, aussi bien l'Afghanistan, le Pakistan, le Bengale, le Sri Lanka et toutes surtout les États d'ailleurs du sud de l'Inde, l'ensemble de des travailleurs provenant de ces régions constituent donc 70% des travailleurs de cette région, donc ils sont majoritaires. Comment vivent-ils? On l'a dit dans les émissions précédentes, dans le reportage précédent, et puis ça commence à se savoir à travers le monde. Ils vivent dans des conditions déplorables, terribles, condamnées partout et par tous, y compris par des grandes organisations internationales de droits de l'homme, de l'Organisation internationale du travail, etc. Et les Émiratis commencent à être un petit peu inquiets de cette histoire, parce que évidemment c'est mauvais pour leur image, et l'image est toute importante et prépondérante dans cette histoire. Vous avez compris qu'il s'agit de tourisme, il s'agit d'image donc, et il faut que cette image ne soit pas ternie ni gâtée en aucune façon. Et les travailleurs commencent à comprendre que c'est là-dessus qu'ils peuvent jouer. Enfin, c'est une de leurs façons de militer, d'essayer de jouer sur ce terrain-là, sur cette image. Comment vivent-ils? Ben, c'est pas si facile que ça de le savoir. Ils vivent dans des camps de travail, dans des foyers de travailleurs, disons, qui sont pas faciles du tout, pas du tout ouverts aux étrangers et encore moins aux journalistes. Voilà un de ces camps dans lequel nous sommes allés, qui est loin d'être le pire, où les travailleurs nous expliquent. Une fois qu'on s'est bien enfermé dans une des chambres où il est prévu de vivre à deux, et en fait ils vivent à 6 ou 8 ou 10, quel est le but de leur présence dans ce pays? C'est le même but que beaucoup de travailleurs immigrés à travers le monde.
Many people depending on maybe the village is looking.
Il y a des cas où tout le village compte sur cette personne, dépend de cette personne.
And I was faced the same problem, I guess. There is any marriage, there is special occasion. I'm getting so many letters. I have to send everybody, especially in Wanam. I have to send around all the village.
Moi, j'ai fait face à cette situation aussi. Chaque fois qu'il y avait des mariages ou des fêtes, surtout la fête de Wanam, c'est la plus grande fête des gens du Kerala, je recevais des douzaines de lettres et j'envoyais de l'argent à pratiquement tous les villages.
Parce que tout le monde te demandait de l'argent.
Yeah, because they're all depending me, because village is very small and everybody knows me.
Parce que tout le monde me connaissait, le village était très petit et tout le monde dépendait de moi.
I have given to 3 girls marriage.
J'ai contribué au mariage de 3 filles.
It's not my relation.
Même pas de ma famille.
And they are thinking, they are seeing in cinema and television, Dubai is a very colorful city. And they are thinking, in village, the people thinking, all of our relatives is working in Dubai, they are living like that. So there is no picture about these camps and these rooms.
Les gens ne connaissent pas la réalité dans les villages. Ils regardent des films où on montre Dubaï d'une manière extrêmement
belle. Flatteuse, scintillante, etc.
Donc, ils pensent que ces personnes vivent
dans le monde.
Toi, tu pourrais.
India, nobody is giving job because everybody is thinking you have lots of bank lines. So that's why nobody is giving job.
Si on rentre en Inde, personne ne va nous proposer un travail parce qu'ils pensent, ah, ils sont déjà très très riches, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont travaillé à Dubaï.
Mais aujourd'hui, toi qui es là depuis un an, est-ce que les gens rêvent de venir à Dubaï toujours?
Oui, tout le monde en rêve. J'ai beaucoup d'amis qui me demandent tout le temps, est-ce que je peux aussi venir? Est-ce que tu pourras me faire venir?
Donc depuis 30 ans, le mythe de Dubaï continue de fonctionner et de faire rêver dans une grande partie de l'Inde.
Yes, that's a problem. Still they are thinking Dubaï is all days.
Ça, c'est un vrai problème parce que les gens continuent à entretenir cette opinion pas très réaliste.
Mais vous, vous n'avez rien fait non plus pour dire la vérité là-bas.
Personne ne nous croit même quand on raconte la
réalité. Parce que les gens ont tellement regardé des choses qui vont à l'encontre de ce que nous disons.
Même
avec des amis, quand je leur dis, moi je veux laisser tomber mon travail, trouve-moi quelque chose, ils ne veulent pas me croire. Ils pensent que je plaisante.
Alors, c'est l'éternelle histoire, la ville lumière, la ville mirage. Combien de nos ancêtres, des provinces françaises ont été attirés par la capitale à la fin du siècle dernier, au cours du siècle précédent. L'exode rural, c'était cette ville fascinante de perdition, etc. Et ben, c'est le mythe de l'Eldorado, un endroit où les hommes sont couverts d'or. Et ben, ça marche toujours dans les films. En Inde, on raconte toujours la vie libre qu'on a à Dubaï, la rutilante Dubaï. Et c'est fait pour ça. Dubaï, c'est une vitrine qui attire l'argent et qui attire aussi les rêves de tous. Ces rêves, c'est comme effectivement une lampe avec comme les insectes qui viennent mourir sur la lampe. C'est tout à fait comparable. Alors que fait le gouvernement indien? C'est une puissance quand même, cette présence de ces travailleurs si nombreux à Dubaï. Et bien évidemment, pour le gouvernement de l'Inde, c'est une façon quand même très très pratique de réduire le chômage très important en Inde. C'est une façon surtout de faire rentrer des devises, parce que ces travailleurs font rentrer des devises. Et il faut jamais oublier qu'en matière de relations entre les États n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts. Alors nous voilà au consulat de l'Inde à Dubaï, où nous rencontrons Monsieur B.S. Moubarak, qui est habilité à recevoir les travailleurs, leurs plaintes et leurs complaintes, et à essayer de régler leur situation dans le cadre de la politique que je viens d'indiquer. Il nous raconte qu'il y a 1,5 million d'Indiens qui vivent dans les Émirats. 70% de ces 1,5 million d'Indiens sont des travailleurs sans qualification, très bas salaire, qui travaillent le plus souvent sur les chantiers et qui effectivement vivent dans des conditions difficiles. Il y a eu beaucoup de mouvements de grève. On nous a parlé d'émeutes récentes.
The recent past, there have been 2-3 strikes and all major strikes.
Oui, au cours des dernières semaines, il y a eu 2-3 grosses grèves.
But a strike in UAE is illegal.
Mais il faut savoir que les grèves sont interdites ici aux Émirats Arabes Unis.
Mais quel est le rôle ici de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail? Est-ce que cette organisation internationale est présente ici?
To my knowledge, they are not signatories of ILO.
À ma connaissance, ils ne sont pas signataires des accords de l'Organisation Internationale du Travail.
Donc, ils ne sont pas astreints à se plier aux règles internationales.
Yeah. But they have their own labor laws, which are fairly good.
Mais ils ont en même temps leurs propres lois du travail qui sont acceptables.
And every country has its own law and order.
Chaque pays a ses propres lois, vous savez.
And when we come and live in this country and work in this country, we have to respect the country's
law. Quand on vient vivre et travailler dans ce pays, il faut qu'on suive les règles de ce pays.
Alors, quels sont les plus gros problèmes?
Mostly it is wages. Because now what happens is now there are numerous projects here and numerous companies are competing for each project.
Mais principalement c'est les salaires, parce qu'il y a beaucoup de projets de construction en cours ici et donc il y a une compétition très rude entre les différentes sociétés pour avoir ces contrats.
And each contractor, major contractor, has numerous subcontractors.
Voilà, et chacun de ces sociétés qui a ces contrats a plein de sociétés sous-traitantes après.
And also, recently what had happened is the raw materials, steel, cement, everything has gone up in prices.
Et ce qui s'est passé aussi récemment, c'est que toutes les matières premières, l'acier, le ciment, le béton, tous les prix ont monté, ont explosé.
And what they are trying to do is the only way where they can gain or cut is the wages of the laborers.
Et le seul endroit, la seule variable d'ajustement, le seul endroit où ils peuvent récupérer cette hausse des prix, c'est sur les salaires des ouvriers.
Now they, all the major companies, even they are trying to account even for minutes of the working for the wages.
Donc ils essaient de gratter un maximum, mais même les grosses compagnies maintenant sont à compter aux minutes de travail qui peuvent déduire des salaires des ouvriers.
Mais au total, est-ce que ces travailleurs,
et qui viennent de l'Inde. Une fois qu'ils ont remboursé les sommes versées aux agences de passeurs, une fois qu'ils ont payé tout ce qu'ils ont à payer, est-ce que finalement, ce qui leur reste n'est pas l'équivalent de ce qu'ils auraient eu là-bas, ce qu'ils auraient eu dans leur pays?
Especially for unskilled laborers, it is not good at all.
Non, en particulier pour les ouvriers qui sont non qualifiés, ce n'est rien de bon.
If you compare the wages of unskilled laborers here and in India, maybe they are getting 25 to 30% less than what they are getting here.
Si on compare les salaires des ouvriers non qualifiés ici en Inde, ils ont peut-être 20-30% de moins qu'ici.
Oh. So it is not a big benefit. They are away from their family.
Donc
they
c'est pas un gros bénéfice pour eux puisqu'ils sont allés loin de leur famille.
They don't get the cheap health benefits that they get in India.
Et ils n'ont pas accès aux soins bon marché qu'ils pourraient avoir en Inde s'ils sont malades.
So many. That is why the resentment has come in now.
Et c'est pour ça qu'il y a un vrai ressentiment qui ressort chez ces ouvriers.
C'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent quand même alors?
See, there are two reasons.
Il y a deux raisons à ça.
One is that they think Dubai is gold. Dubai is only they see only in TV, the shopping festivals, Dubai malls, this, that, and all.
Bah déjà, ils ont l'impression que Dubaï, tout est pavé d'or. Ils voient la télé, ils voient le shopping festival, ils voient ces malls gigantesques.
And they think that they come and take great money back home.
Et ils pensent qu'en venant ici, ils pourront rapporter plein d'argent au pays.
That is the reason they take a loan and they come.
C'est pour ça qu'ils s'endettent pour pouvoir venir ici.
Once they come here, they don't have another choice. They have to repay their debt, and then they get used to this system. They try to repay the debt and they try to make some money and go back.
Et une fois qu'ils sont ici, bah là c'est là où ils sont coincés. Ils n'ont plus qu'à bosser, à trouver leur place, à comprendre comment marche ce système pour pouvoir rembourser leur argent et retourner chez eux.
Et ça demande combien de temps le remboursement de l'argent?
Depends on how much loan they take. But I was told by generally when I speak with workers, they say that more than 1.5 years they have to entirely send all the money only to repay the loan.
Bah ça dépend un peu des uns et des autres, mais ce que je vois avec les témoignages que j'ai, c'est que souvent ça prend minimum 1 an et demi juste pour rembourser le frais. Tout l'argent va dans le prêt pendant au moins 1 an et demi. Là, ça c'est une camionnette, ça c'est les camionnettes qui va porter des ouvriers.
Ah ouais.
Fin de journée du travail.
Camionnette grillagée quand même. Hein. Toi, tu travailles dans quel secteur?
Je travaille avec des câbles. Mm-hmm.
Ça c'est sa carte de travail qui sort immédiatement.
Je viens de Madras, du Tamil Nadu.
Et alors, tout se passe bien?
Rien ne marche.
C'est-à-dire?
Ce mois, je n'ai pas été payé. Je n'ai pas touché mon salaire.
Et pourquoi tu n'as pas touché ton salaire ce mois-ci?
Mais ils veulent supprimer mon contrat. Parce qu'il voulait embaucher d'autres main-d'œuvre qui coûtent moins cher. Alors que j'appartiens à la compagnie, je pensais qu'il allait me favoriser, mais ils veulent plutôt embaucher d'autres personnels et ils veulent annuler mon contrat.
Donc ils veulent te mettre dehors, ils veulent te jeter.
Ils me demandent de rentrer en Inde. J'ai encore un visa qui est valable pendant encore 2 ans, mais ils veulent annuler mon contrat. Nous n'avons aucun droit, nous ne pouvons porter plainte auprès de personne. Même si ça fait 6 ans que je travaille ici, ce que je dis, ça ne compte pas. Ils me demandent de signer, mais je refuse de signer, parce que si je signe, ils vont pouvoir annuler mon contrat.
Est-ce que tu trouves qu'elle est belle, cette ville? Regarde derrière nous, les grands immeubles. Tu trouves que c'est beau, tout ça?
Oui, la ville est belle, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent d'ici, qui se font tromper, etc., qui vivent dans des conditions pitoyables, qui n'ont pas d'argent. Ce n'est pas bien gai, tout ça.
Est-ce que tu es fière d'avoir travaillé dans ces beaux immeubles, tout brillants, tout grands, tout beaux?
Oui.
Moyennement.
Quand on construit ce genre de bâtiment, il y a plusieurs personnes qui tombent, qui ont des accidents, il y en a qui meurent et tout ça.
A $15 billion mixed-use theme park
on nearly 4 billion square feet of land, Dubai, business destination.
Alors voilà, le Dubaï qui fait rêver, le Dubaï touristique, le Dubaï, le grand luxe de Dubaï, avec Monsieur Louis. Il y a beaucoup de Français qui prospèrent et qui tentent leur chance, mais qui arrivent très bien à Dubaï, hein, si ça vous intéresse. Vous pourrez vous adresser, par exemple, à Monsieur Louis, qui est le directeur de l'hôtel Mirage, le bien nommé hôtel Mirage. Et là, il nous reçoit au One and Only, seul et unique.
J'ai eu la chance de faire partie de cette vague d'expatriés qui est arrivé sur Dubaï il y a à peu près 10 ans de cela. Vraiment le Dubaï Inc. Startup, hein, une vraie startup. Peu de gens étaient prêts à miser sur le succès. Et aujourd'hui, vous-même, vous êtes témoin de l'expansion fabuleuse. On a du mal à croire tout ce que l'on voit déjà construit. On a du mal à croire tout ce qu'on voit à construire. Et vous l'avez vu, hein, la cité Internet, médias, loisirs, médical, investissement, real estate, toutes les sportives, toutes les facettes, toutes les recettes à succès observées dans le monde entier sont aujourd'hui...
Toutes les recettes à succès, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, ils s'inspirent de tout ce qui marche dans le monde.
Voilà. Vous avez derrière vous une maquette qui s'appelait Dubai Marina, qui a été lancée il y a 3 ans. Elle comprenait 70 gratte-ciels, entre 40 et 60 étages. Vous comptez aujourd'hui, ce n'est plus 70 gratte-ciels, ce sont 100. Essayez d'acheter un appartement aujourd'hui, vous avez du mal. C'est ça qui est surprenant. Même moi, pour mon hôtel, parce que nous hébergeons tous nos cadres, je suis en liste d'attente. Donc, tout ce qui a été fait depuis 10-15 ans marche. Pourquoi ce qui est annoncé pour les 10-15 prochaines années
ne marchait pas?
Moi, je retire mon chapeau, parce que regardez les succès. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui a été ouvert depuis 5, 8 ans, 10 ans que je suis ici, tout marche. Et tout rapporte.
Welcomes the world. Dubai Waterfront. Next generation destination.
Vous avez bon, la chance, la clientèle, vous avez donc pratiquement 500 chambres et vous avez plus de 1000 employés. Donc vous imaginez déjà le facteur employé-client. Vous êtes gâté.
Deux employés par chambre.
Vous êtes bichonné. Bichonné. Si le mot est toujours bon. 8 restaurants. Donc les gens ont vraiment un choix merveilleux sur le plan culinaire. Un hammam oriental extraordinaire. Là, c'est un petit moment de rêve. Ce qui est merveilleux, vous avez vu, c'est cette façon élégante d'intégrer une touche locale sans qu'elle soit ostentatoire. On s'y sent bien, on s'y sent confortable.
Et vos projets alors ?
On ouvre un petit boutique, hôtel fantastique sur l'île Palmier. La fameuse île Palmier qui est en face, avec 10 villas et une petite marina privée, côté un petit peu Riviera, Portofino, VIP. Et nous allons construire un petit ponton sur notre plage. Et les clients, avec de très beaux bateaux, peut-être style Riva, emmèneront la clientèle d'un hôtel à l'autre. C'est agréable, avec un petit verre de champagne.
Alors là, on rencontre un autre travailleur là qui est avec sa brouette, sa vieille brouette, et il a un bleu de travail. Tu nous dis que ça fait 20 ans que tu es là ?
Oui. Je n'arrive à rien économiser. 300 rupees de khurcha
jata hamara. Je dépense
310 dirhams.
400-300
bastas.
Et puis après, il me reste encore 300-400 dirhams, c'est tout par mois.
Ouais.
Ça fait même pas 75 euros.
Il te reste 75 euros pour vivre chaque mois.
Je n'arrive pas...
Là, dans quelle compagnie tu travailles là maintenant ? Tu es avec ta brouette et ton tonneau et ton bleu de travail ?
Al Badr Gulli.
Je travaille pour la compagnie Al Badr.
Et ton boulot c'est quoi ?
Amara, je suis plutôt dame.
Je travaille dans l'acier, steel fitter, dans les tuyaux.
Mm-hmm. Tu es de quelle région ?
Rajasthan.
Je suis du Rajasthan.
Rajasthan.
Jaipur.
De Jaipur.
Alors, au bout de 20 ans ici, qu'est-ce que tu te dis ? Tu as eu raison de venir ? Que c'était bien ou bien que c'était... tu t'es fait piéger ?
Tout ce qui est main-d'œuvre, c'est vraiment... ils sont tous piégés. Ils se sentent piégés.
Oui, c'est ça.
Les gens qui sont fonctionnaires, qui sont responsables, qui travaillent dans les bureaux, ils sont bien parce qu'ils vivent en famille, etc. Eux, ils sont bien.
comme ceux qu'on voit là qui sortent de la voiture et qui sont deux petits pépères. Alors, bien souriants, bien rondouillards, et pour qui les choses se passent bien. Mais ça, c'est la petite middle class indienne qui s'est installée ici à Dubaï et qui était venue des fois souvent avec un peu d'argent ou avec un peu de diplôme ou avec un peu de formation et qui a fait son trou ici. Mais ça représente pas plus que 30% du nombre total des Indiens qui sont dans les Émirats. 70% en fait des Indiens des Émirats sont comme notre ami, se sont fait piéger les uns derrière les autres. Ils continuent de se faire piéger. Une fois arrivés ici, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas repartir, donc ils restent. Et puis aujourd'hui, ils se demandent s'ils ont raison ou non d'être restés, quoi. C'est l'envers du miracle. Alors vous ici, parlez-nous de vous.
Nous, c'est la compagnie One and Only. Nous sommes arrivés ici il y a 8 ans de cela. Il n'y avait rien autour de nous, hein, que du sable. Le mythe, c'était un mirage se créer au milieu de ce désert de Dubaï. 3 ans après, nous avons construit 2 autres hôtels. Donc celui-ci où nous sommes aujourd'hui s'appelle le Palace. Nous avons après construit l'Arabian Court, qui fait 175 chambres. Et au milieu de tout ça, un très beau petit bijou qui s'appelle la Résidence et son spa Givenchy. Donc un petit complexe hôtelier maintenant de presque 500 chambres.
Au total, 500 chambres, voilà. Remplies à l'année à 80...
à 90%.
À 90%.
Une belle année à Paris, 70%.
Alors, qui vient là?
Notre clientèle est principalement touriste, touristique, européenne à 90%. J'ai presque envie de dire Dubaï devenant peut-être le Miami régional. Il pleut seulement peut-être jamais, 2-3 fois par tous les 3 ans peut-être. Donc vous avez un soleil garanti, vous le voyez, pas un nuage depuis peut-être plus 3 mois.
Alors parlez-nous de prix quand même, parce qu'on se dit que c'est merveilleux et tout, mais combien ça coûte tout ça?
C'est assez raisonnable sur le
plan. Bien sûr, vous n'allez pas me dire que c'est trop cher.
Non, vous prenez par exemple le Palace et l'Arabian Court, on parle d'une moyenne de 400 à 450 dollars, c'est-à-dire vous faites 350 €, et la résidence est un peu plus exclusive à 700 €. Mais ça, c'est en haute saison. Vous avez après une saison qui est aussi très agréable, qui est celle de maintenant, qui est mai, juin, juillet, août. Peut-être un peu chaude. Oui. Mais les piscines sont rafraîchies. Hein. On garde les piscines.
Vous mettez des glaçons.
Presque. Nous rafraîchissons les piscines qui sont tenues toujours entre 26 et 27 degrés.
Ça vous fait envie? Ben voilà, c'est Dubaï. On y retournera demain. C'était un reportage avec Guy Vanctil, traductrice des Padman, à Tarajan. Merci à Olivier Louis, qu'on vient d'entendre. Merci à Vies Moubarak, Soléna Lesan, Tayeb et Rafika Majoub. Et merci aussi à Rachida Taher. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Olivier Rieutor et Michel Bézikian. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale. Assisté de Pascal Pascariello et de Christophe Imbert pour le répondeur. J'oublie Raphaël Moutarde qui a fait tout le boulot, tout le montage. Et le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Réclame.